Bien, je merci beaucoup Pierre pour ton introduction et surtout pour cette invitation qui, depuis le premier email me proposant de participer à cette journée qui était au printemps, me fait grand honneur et m'impressionne. Dans un premier temps, j'ai demandé à Pierre s'il était vraiment certain que ce qui ne va pas être un petit décentrement, mais je pense un choc culturel, du moins une expérience exotique, ne serait pas juste un alibi exotique pour cette journée. Mais Pierre m'a convaincu du contraire, et puis de toute façon, je suis totalement incapable de dire non à Pierre. Et donc j'ai accepté, mais j'ai continué à être impressionné par la qualité des discussions depuis ce matin, par le nombre de personnes présentes dans cette salle, qui n'est pourtant pas extrêmement accueillante, et ceci un samedi après-midi. Et donc, voilà, je prends la parole en étant un peu impressionné et avec l'espoir de trouver des moyens de rejoindre et peut-être de contribuer un peu à cette discussion. En partant de mon travail d'historien de la Chine. Alors, sur cette première diapositive, outre le titre et le nouveau logo de l'EPHE, vous pouvez voir l'image d'un personnage qui n'est peut-être pas familier à tout le monde, mais qui est assez bien connu des historiens de la Chine de la fin de l'époque impériale, Zhou Gui, qui était le haut fonctionnaire le plus puissant de tournant du 19e siècle, donc quelqu'un qui présidait aux destinées du plus vaste empire sur la surface de la Terre à cette époque, et qui est bien connu de l'historiographie et toujours décrit comme un prototype de ces personnages que les missionnaires jésuites présentaient comme des rationalistes pragmatiques, ayant une solide formation en philosophie au travers de l'étude des classiques qui les préparait aux examens de recrutement dans le mandarinat, mais étant par ailleurs très peu intéressé par les questions religieuses et encore moins par les questions mystiques. Or, comme on le voit ici, dépeint en posture de méditation, si on regarde non pas au travers des textes officiels ou les sources canoniques sur ce personnage, mais dans d'autres types de corpus de textes, on voit une autre facette de Monsieur Zhu comme pratiquant la possession, communiquant avec les dieux et parlant, éditant, diffusant des textes sur l'apocalypse prochaine qui allait envahir le monde et sur son rôle en tant que future divinité de sauver le monde de l'apocalypse. Donc on a ici une perspective assez différente de ce que nous enseignent les manuels sur la vie religieuse et spirituelle des élites chinoises de la fin de l'Empire. Et même si ce n'est pas vraiment le sujet de ma communication d'aujourd'hui, ce type d'attitude des élites chinoises vis-à-vis du salut et des techniques spirituelles a différentes formes de continuité jusqu'à aujourd'hui. Donc, en préambule, je voudrais essayer, sinon de me dédouaner, du moins de tenter de justifier le fait que je ne reprenne pas vraiment les termes de notre journée d'études, raison philosophique et expérience mystique, pour des raisons que vous ne trouverez sûrement pas excellentes, mais qui est que je ne suis pas du tout philosophe et que donc je ne serai pas à ma place de vous parler de philosophie, et que d'autre part, la catégorie de mystique, et je m'en suis pleinement rendu compte en essayant de préparer cette communication, est extrêmement peu utilisée dans le champ des études chinoises. Non pas qu'il n'y ait pas de mystique telle qu'on peut la définir de différentes façons, mais quelle que soit la façon dont on la définit, on trouverait assez aisément une forte abondance de pratiques mystiques, de comptes rendus, enfin de textes faisant part d'une expérience mystique, de traités des mystiques, mais en sinologie, dans la façon dont on traite scientifiquement les observations de terrain et les textes dont nous disposons, la catégorie n'est extrêmement peu utilisée. On trouve quelques cas, se référant généralement à l'Antiquité, la catégorie n'est pas utilisée en tant que telle, et donc je serais assez prudent au fait de l'utiliser, même si ce serait certainement parfaitement justifié. Mais je vais tenter de vous convaincre du fait qu'on peut essayer de réfléchir à des questions sinon identiques, du moins comparables à celles qui ont été traitées depuis ce matin, mais à partir d'autres catégories qui ne recoupent pas entièrement celles de philosophie et de mystique, mais qui peuvent les croiser et avec laquelle je suis plus familier par mon travail d'historien, qui est d'une part celui de travail doctrinal ou d'élaboration, de production doctrinale, et d'autre part de technique spirituelle, dont le but est de mener à un changement du statut ontologique de la personne et donc à différentes formes de transcendance. Donc peut-être quelques mots d'abord sur ce que sont ces techniques spirituelles, puisque par la suite j'en évoquerai certaines et je lirai même une traduction d'un texte qui rend compte de la mise en pratique de ces techniques spirituelles. Elles sont très nombreuses. Il serait certainement difficile d'en fournir une liste exhaustive, et donc je voudrais juste en donner quelques exemples importants, disons culturellement dominants à l'époque qui m'intéresse, donc qui est la fin de la période impériale entre le XVIe et le début du XXe siècle, qui sont en premier lieu les techniques taoïstes de transformation de soi. Donc, comme vous le savez, dans la culture chinoise de cette époque, les pratiques et institutions religieuses sont généralement décrites comme relevant de trois grandes traditions lettrées et ecclésiastiques, donc avec des centres de formation, des clergés, des liturgies, des textes, des canons, etc., que sont le taoïsme, le bouddhisme et le confucianisme, et d'un vaste ensemble d'autres traditions qui entretiennent des rapports divers avec ces trois traditions institutionnalisées et reconnues par l'État impérial comme orthodoxes. Donc ici, on a un ensemble de techniques spirituelles qui sont particulièrement liées au taoïsme et qui sont donc désignées par le terme chinois de Neidan, l'alchimie intérieure, et qui vise à une transformation de soi au travers de pratiques de visualisation et de manipulation du corps par la méditation. Donc on dit alchimie intérieure parce qu'elles reprennent l'imaginaire, le lexique et certaines techniques de l'alchimie opératoire, qui utilisent des ingrédients, minéraux, végétaux, autres, mais en mettant de côté toute forme de pratiques manipulatoires, y compris de pratique en couple pour l'alchimie sexuelle et qui se base uniquement sur la contemplation intérieure et donc sur la transformation du corps par la manipulation, déconstruction et reconstruction de l'ensemble de ces éléments où le vocabulaire cosmologique est très important et donc on met en œuvre le processus cosmologique de constitution de l'univers à l'intérieur de son corps et en le reprenant à rebours du temps de manière à remonter aux origines et à trouver des éléments de transcendance qui permettent de créer un nouveau soi qui est transcendant, donc qui n'est pas assujetti aux transformations, à la décadence propre à tout ce qui est immanent. Autre grande tradition, la méditation bouddhique, non connue par le terme de Chan, ou connu en Occident par la prononciation japonaise Zen, c'est le même terme, la même tradition, partage certaines visions du monde, certaines pratiques, certains lexiques, certains textes théoriques avec les techniques taoïstes d'alchimie intérieure, mais s'en distingue aussi très fortement par un héritage scriptural évidemment différent. Une partie vient du bouddhisme indien et aussi par une vision différente de l'individu et du corps. Les taoïstes reprochant aux bouddhistes, même s'ils les fréquentent fortement et si les échanges sont très nombreux, mais leur reprochant d'accéder à une forme de transcendance qui ne concerne pas l'intégrité de l'individu et qui ne concerne qu'une partie de l'individu. Alors que, selon eux, l'alchimie intérieure permet de faire accéder à la transcendance la totalité de l'individu. Et enfin, des formes qu'on peut qualifier de plus confucianisme, mais ce ne sont que des étiquettes et des catégories, car dans la pratique, les échanges à la fois de textes et de pratiques entre ces trois traditions sont très intenses et permanents tout au long de l'histoire. Les techniques de perfectionnement de soi moral, par l'examen de ses propres actes, les formes de repentir, les formes de perfectionnement moral, par un examen, une sorte d'objectification de soi et d'examen moral de soi qui doit mener de façon graduelle à une forme de perfection morale qui peut faire accéder donc au statut de sage, donc à une autre forme encore de transcendance. C'est un aperçu évidemment extrêmement rapide et un peu superficiel, mais c'est juste pour donner une idée de ce dont on va parler. Une chose qu'il faut ajouter, c'est que pour les élites, puisqu'on parle ici spécifiquement des élites lettrées, c'est-à-dire les personnes qui ont passé au moins le premier degré des examens de recrutement dans la fonction mandarinale, donc qui ont un statut tout au long de la période impériale, donc jusqu'à l'abolition de l'Empire en 1912, qui jouissent d'un statut légal spécifique à ce titre. Donc c'est vraiment une classe sociale bien identifiée, même s'il y a une mobilité sociale assez forte, du fait que c'est un recrutement qui n'est pas héréditaire, mais qui est le fait d'un processus d'examen au terme d'études. Et qu'une très grande partie de la population avait un certain niveau d'éducation, donc d'accès au texte, une possibilité donc de se présenter aux examens. Donc pour ces élites lettrées, toutes ces techniques spirituelles sont pratiquées, soit de façon plus ou moins exclusive, ou au contraire assez inclusive, et on va voir tout à l'heure des cas de personnes qui se présentent comme des virtuoses de ces techniques spirituelles en combinant un degré assez avancé ces différentes traditions, mais toujours avec une attitude d'autodéfinition, leur identité religieuse et spirituelle, par opposition à des pratiques qu'ils jugent plus populaires de transe ou de possession, y compris donc des formes de visualisation, de contemplation, d'extase, qu'ils jugent comme étant non contrôlées. Et donc leur propre la façon dont ils représentent leur propre pratique spirituelle vise toujours à les opposer ou à les définir en opposition à donc des pratiques populaires moins contrôlées. Donc il y a une très forte valorisation du travail spéculatif et du travail réflexif, avec l'idée du contrôle de soi qui est au cœur de ces différentes techniques spirituelles. Même si, comme on va le voir, les communications avec les dieux, les formes de possession sont également présentes, mais sous des formes qui sont présentées comme étant marquées par le contrôle de l'individu, et pas l'abandon. Et ceci est le fruit de ce qu'on peut identifier sur une histoire sur la très longue durée de la culture chinoise, où chaque moment de changement religieux est marqué par des phénomènes de rationalisation et d'intériorisation. Tout à fait explicite revendiqué par les auteurs. Alors, quelques mots encore sur donc la vie religieuse de ces lettrés. On considère généralement que la vie religieuse des lettrés aux époques qui nous intéressent, même si cette description serait dans une assez large mesure valable également pour des périodes antérieures, se développe à plusieurs niveaux qui sont relativement étanches, ou en tout cas séparés les uns des autres. On a un niveau collectif qui ne nous intéresse pas vraiment ici, mais qu'il faut mentionner, qui est la part très importante des activités religieuses collectives à laquelle les lettrés participent, parfois dans un rôle assez passif, de simple participant, mais assez souvent aussi comme officiant dans toutes les types d'institutions ou de communautés auxquelles ils appartiennent et dont la vie collective est rythmée par des rituels. Donc que ce soit pour ceux qui sont fonctionnaires, les rituels au service de l'État. Il faut savoir que les fonctionnaires, que les missionnaires jésuites nous donner en exemple au XVIIe et XVIIIe siècle, comme ces serviteurs d'un État parfait, tout à fait laïque, rationnel, les fonctionnaires locaux de l'État impérial chinois passaient plus de la moitié de leur temps à faire des sacrifices. C'est en fait statistique. Alors après, on peut considérer que pour beaucoup d'entre eux, c'était un simple devoir, voire même une corvée, et que tous n'y mettaient pas la même implication personnelle, émotionnelle, mais le fait est que donc cette vie rituelle était extrêmement importante. Soit dit en passant, juste pour le plaisir de tordre le cou à une idée encore très répandue, bien que parfaitement fausse, qui voudrait que le confucianisme soit une simple philosophie et pas du tout une religion. Donc voilà, c'est tout un débat. En fait, c'est l'histoire du débat qui est intéressante, c'est pas la question elle-même, parce que la réponse à la question est absolument évidente. Il suffit d'aller en Chine 5 minutes et on se rend compte que le confucianisme est une religion comme une autre. Mais l'histoire du débat sur le confucianisme est une religion est très intéressant. Mais quoi qu'il en soit, le fait est que il y avait un clergé confucianiste, et le fait d'avoir passé le premier degré des examens, donc c'est un examen essentiellement sur la maîtrise d'une tradition exégétique des classiques, hein, c'est-à-dire des textes fondateurs de la pensée chinoise. Le fait d'avoir passé le premier degré, mais qui comprennent aussi des textes liturgiques, plus précisément des textes sur la théorie liturgique. Le fait d'avoir passé le premier degré des examens, et donc d'être éligible pour continuer le passage au deuxième ou troisième degré des examens et être éventuellement recruté dans la fonction mandarinale, fonctionnaire de l'Empire, donner également la capacité, le titre, pour servir de prêtre pour les sacrifices confucéens, qui sont non seulement les rites familiaux, donc les sacrifices aux ancêtres, les mariages, les enterrements, et les rites de passage à l'âge adulte, même s'ils sont très peu pratiqués à la période moderne, qui sont les quatre rites familiaux, mais aussi les sacrifices aux dieux locaux. Tous les dieux locaux font partie du... les sacrifices, les rites, les offrandes aux dieux locaux font partie de la liturgie confucianiste. Hein. C'est une liturgie sacrificielle, puisque les bouddhistes et les taoïstes ne tuent pas d'animaux, or les dieux locaux mangent de la viande. Donc ce sont les prêtres confucianistes qui font ça. C'est pas l'image qu'on a dans les manuels sur le confucianisme, donc c'est pas tout à fait inutile de le mentionner au passage. Voilà, donc dans les académies qui formaient donc non seulement à l'étude des classiques et à l'exégèse, on apprenait aussi la liturgie parce que concrètement, beaucoup d'entre eux allaient travailler non pas comme fonctionnaires, beaucoup allaient travailler comme professeurs, mais un bon nombre aussi allaient travailler comme prêtres sacrificateurs. Voilà. Donc ça faisait partie de leur formation. Donc ils faisaient ça pour l'État, ils faisaient ça aussi pour leur lignage. Hein, les grands lignages étaient les organisations économiques, caritatives, éducatives, mais également religieuses, donc culte aux ancêtres, mais aussi culte aux dieux protecteurs des lignages. Et donc, voilà, ils avaient besoin de prêtres, parfois employés juste pour l'occasion, en freelance, si vous voulez, mais certains d'entre eux, pour les grands lignages, pour les grands temples locaux, employés à temps plein, hein, donc, comme prêtres sacrificateurs, pour les familles, et puis pour les collectivités, donc les communautés villageoises, etc. On a invité, quand on lit les mémoires, beaucoup de ces lettrés tenaient des cahiers quotidiens, enfin des cahiers intimes, des journaux intimes, qui sont des sources extrêmement intéressantes pour comprendre la spiritualité vécue des élites. Et on voit à quel point ils passaient beaucoup de leur temps dans les temples, dans les sacrifices, dans les rituels, et aussi la vision qu'ils en avaient, l'investissement personnel, émotionnel qu'ils pouvaient avoir dans leur rapport avec les ancêtres, avec les dieux, avec Confucius, etc. Ils voyaient les dieux en rêve, ils leur parlaient, enfin, il y avait cette présence très très intime. Donc il y a ce niveau-là, mais qui reste un niveau très collectif, très ascriptif, c'est-à-dire sur les choses qu'on est obligé de faire, qu'on ne fait pas par choix. Après, il y a toute l'activité, alors c'est aussi une typologie évidemment qui est un peu, peut-être un petit peu brutale, qu'il faudrait raffiner, mais le niveau intellectuel avec toute l'activité d'études et d'écriture, donc de production doctrinale, dans des genres très codifiés et assez réglementés de la part de l'État, qui était très pointilleux sur le maintien de l'orthodoxie, et qui nous surveillait d'assez près les travaux d'exégèse ou d'essais doctrinaux, philosophiques, cosmologiques, théologiques, que pouvaient produire les lettrés. Donc il y avait une production très abondante, mais qui était relativement contrôlée. Et puis on a ce troisième niveau, qui est la vie spirituelle, l'expérience individuelle, et qui est très largement reléguée à la vie privée. C'est en tout cas le sentiment qu'on a à la lecture des sources, hein, puisque pour ces périodes révolues, on est tout à fait dépendant des sources écrites. Et alors ces grands lettrés, qui écrivaient énormément de textes, hein, voilà, c'était Paul de Niéville, qui était professeur au Collège de France, qui disait que les Chinois sont des pisseurs d'encre, faut passer l'expression, mais c'est le sentiment qu'on a parfois à l'étude de ces corpus d'écrits de la part de lettrés, qui couvrent souvent des mètres, des dizaines de mètres sur les rayons de nos bibliothèques, mais qui, au-delà de ce sentiment de surabondance, quand on regarde de plus près, on se rend compte que très souvent les sources sur sur ces lettrés, sur leur vie culturelle, religieuse, sociale, ont été très fortement éditées par leurs disciples ou leurs familles, et qu'on a très peu d'éléments sur leur vie privée. Donc les cas que j'évoquais tout à l'heure de ces journaux intimes sont une exception. Souvent ils ont survécu, ils n'ont pas été publiés. Il y a quelques exceptions, mais c'est tout à fait marginal. Ils ont été conservés sous la forme de manuscrits, donc souvent en écriture cursive, véritablement difficile à lire, dans les collections des familles. Ce n'est qu'assez récemment que ce type de texte est publié et nous donne un accès nouveau, tout à fait inédit, à cette vie intérieure de lettrés qui est extrêmement difficile de voir au travers de leurs écrits. La poésie, donc les lettrés publiés de façon très abondante, leur poésie, et c'est le seul genre qui donne un petit peu à voir ces expériences personnelles, cette vision du monde qui n'entre pas dans les cadres très codifiés du travail doctrinal que j'évoquais tout à l'heure, mais qui reste très difficile à utiliser parce que la poésie a aussi ses normes très contraignantes et il est très malaisé de l'utiliser pour faire parler une voix personnelle. Et ce n'est qu'au fond, depuis une génération environ, qu'avec la publication de vastes corpus de textes religieux, on a accès à l'expérience, une certaine forme d'expérience spirituelle de ces lettrés, au travers de textes révélés qu'ils ont écrits, non pas avec leur propre voix, et ça c'est un élément très important, je reviendrai dans un instant sur la question de la technique de révélation, mais en faisant parler les dieux à leur place, peuvent dire des choses qu'il leur serait très difficile de dire autrement, pour ne pas, disons, franchir cette barrière du public et du privé. Alors, avant d'en venir à la révélation, un mot encore sur non plus les formes, mais les buts de la vie religieuse de ces lettrés. Là aussi, c'est peut-être enfoncer une porte ouverte, mais insister sur l'angle mort qu'a longtemps été la spiritualité des lettrés dans une vision qui nous a été largement... proposé par des intellectuels chinois du XXe siècle et par leurs élèves occidentaux, visant à faire de la Chine une religion, une société assez peu religieuse et où domine le culte des ancêtres, qui serait plus un culte mémoriel qu'un culte à proprement parler religieux. Le modèle qui a été développé par des anthropologues dans les années 70 propose que pour les Chinois, les formes de continuation dans l'au-delà, d'existence dans l'au-delà, répondent à un modèle triple, donc les ancêtres, les fantômes, la traduction est très mauvaise, mais voilà. Donc en anglais, gods and ancestors, donc en chinois, shen zu wei gui, en français peut-être donc les dieux, les ancêtres et les morts qui ne sont pas encore pu trouver une nouvelle forme d'existence, soit comme ancêtres, soit comme Dieu, soit sous forme de réincarnation, parce qu'ils n'ont pas encore fini de purger dans l'au-delà les punitions qu'ils ont dû subir pour les fautes qu'ils ont commises de leur vivant. Et selon ce modèle, la forme normale d'existence pour quelqu'un qui a vécu une bonne vie et qui est passé par une bonne mort est d'être ancêtre. Et les dieux sont d'anciens... Oui, c'est fantômes, démons, qui ont pu être rattrapés, qui ont fait l'objet d'un culte, qui a prospéré, qui ont pu être réintégrés dans un ordre moral et être mis au service des communautés locales ou de l'Empire dans son entier. Ce modèle a longtemps été un modèle dominant, où on pensait que la Chine était dominée par le culte des ancêtres et où les dieux étaient des êtres puissant, que l'on pouvait mettre à son service par un échange sacrificiel, mais qui était étranger, qui était lointain. Il me semble qu'il faut vraiment revenir sur ce modèle qui a une forte efficacité heuristique pour comprendre le fonctionnement des systèmes sacrificiels dans la société chinoise, mais qui ne répond pas du tout à l'aspiration des individus, c'est-à-dire qui se place à un niveau social, qui peut expliquer comment fonctionnent les cultes, mais qui ne rend pas du tout compte de la façon dont les individus eux-mêmes, et en particulier les lettrés, voient l'au-delà et voient leur propre destin. Ce que ce modèle occulte, c'est qu'au-delà du fait de devenir ancêtre, et ce n'est pas contradictoire, ce n'est pas un choix de devenir ancêtre ou Dieu, on devient ancêtre et on peut aussi devenir Dieu, mais l'aspiration spirituelle et religieuse, et sur ce point je n'ai pas d'opposition à faire, des individus et la divinisation, et de devenir un dieu. Et toute l'histoire religieuse de la Chine, me semble-t-il, peut être relue comme la façon dont l'accès au statut divin, la possibilité de divinisation, s'est progressivement accrue par divers moyens, et ceci sur selon deux modalités essentielles. D'une part, le salut, c'est un accès individuel et direct à la transcendance par les techniques spirituelles, Donc l'accès à l'éveil par la méditation bouddhique, l'accès à l'immortalité par la maîtrise des techniques alchimiques de transformation de soi, d'une part, et d'autre part, un accès à la bureaucratie divine par le mérite. Je ne reviens pas sur l'histoire, je ne vais pas développer ici l'histoire de la bureaucratie divine et de sa très forte expansion au cours de l'histoire, notamment autour d'une période charnière qui est l'expansion à la fois de l'État impérial dans la bureaucratie réelle et de la bureaucratie divine. Et je laisse de côté la question de savoir lequel a servi de modèle pour l'autre. Ce n'est pas aussi évident qu'on pourrait le penser dans une perspective positiviste. Cette très forte expansion a eu pour résultat que là où l'accès à un rang de fonctionnaire dans la bureaucratie divine était juste aux époques antérieures considéré comme difficile et exceptionnel, se généralise. Et où les personnes qui nous intéressent, donc à la fin de l'époque impériale, entre le XVIe et le début du XXe siècle, pour ces lettrés fonctionnaires, devenir un dieu est normal. C'est de ne pas devenir un dieu qui est un échec ou une aberration. Et ils deviennent dieux par leur mérite. D'une part, par leurs études, c'est un droit. C'est-à-dire quand vous êtes fonctionnaire en ce monde, c'est que vous avez des compétences, vous avez des capacités, vous servez le peuple, et que dans l'au-delà, la bureaucratie divine a besoin de ce type de compétences, et que donc il est normal que vous soyez promu à un poste. Et que si vous n'êtes pas promu à un poste, c'est parce que vous avez fait des fautes ou commis des erreurs qui ont fait que vous avez été rétrogradé. Dans un système qui est très hautement codifié, les codes de loi impériaux, qui se modèlent sur les codes de loi de ce monde-ci, du monde des vivants, ceux qui sont beaucoup plus longs et beaucoup plus détaillés, sont publiés, ils sont révélés par les dieux, on va reparler de révélation dans un instant, ils sont révélés par les dieux, ils sont diffusés, ils sont publiés. Donc c'est une bureaucratie qui fonctionne sur un modèle rationnel à la Weber, et dont les règles du jeu sont connues, dont les procédures sont connues, dont les règlements sont connus. Alors, en quoi accéder à la bureaucratie divine peut être mis en parallèle avec le salut? Les différences sont assez manifestes, au sens où le salut, c'est vraiment un changement ontologique immédiat. On devient immortel, on est immortel, on le reste. Quand on a atteint l'éveil, on est un Bouddha. On est un Bouddha, on reste un Bouddha, on ne peut pas être rétrogradé depuis l'état de Bouddha. Les fonctionnaires de la bureaucratie divine, en revanche, sont dans un statut qui n'est pas éternellement garanti, puisqu'ils sont toujours soumis au code de loi que j'évoquais à l'instant, et donc s'ils font des erreurs, s'ils donnent des bénédictions à des humains qui ne les méritent pas, ou s'ils envoient des malédictions à des humains qui ne les méritent pas non plus, ils seront punis et rétrogradés. Dans les pires des cas, s'ils causent des épidémies, des guerres, des désastres, ce genre de choses, ils vont être exterminés. On peut tuer un mort, c'est théologiquement un petit peu complexe à penser, mais c'est tout à fait possible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il reste encore quelque chose après, qui s'appelle un spectre. Bref. Donc, ce n'est pas un accès à proprement parler au salut. Mais comparé, mis en regard de l'ancestralité, c'est une promesse de vie éternelle. Parce que l'ancêtre, lui, il est certain qu'il finit par se dissoudre dans une masse commune et indistincte d'ancêtres. On rend un culte aux ancêtres 3 générations, 5 éventuellement 7. Et après cette génération, la tablette, donc l'individualité de l'ancêtre que l'on connaît par son nom, à qui on vient donner des offrandes le jour de son anniversaire, donc à qui est rendu un culte personnel, c'est-à-dire à qui on reconnaît une identité unique. Au bout de la 7e génération, cette tablette est enlevée, elle est brûlée, et l'âme de l'ancêtre est supposée intégrer une sorte de masse collective d'ancêtres, donc avoir encore une forme d'existence, mais extrêmement diminuée. Et ça, spirituellement, c'est quelque chose qui est assez peu attirant. D'où l'intérêt de la divinisation et d'où le développement continu au cours de l'histoire chinoise des techniques de divinisation de soi qui correspondent à, sinon une promesse ferme et absolue, comme dans le cas des techniques spirituelles permettant d'accéder à la transcendance, du moins la promesse que si on continue à suivre les règles du jeu, donc à travailler dans la bureaucratie divine en observant les lois de la bureaucratie divine, on pourra continuer à progresser de façon continue et sans qu'il y ait de terme de maximum prévu jusqu'à éventuellement atteindre au poste le plus élevé qui est l'empereur du ciel, dit aussi empereur de jade, qui est le chef du Panthéon. Donc il y a cette promesse d'un salut progressif. Voilà. Alors, arrivé à ce point de l'exposé, on pourrait dire qu'on a défini une opposition entre, d'une part, une religiosité qui relève de l'ordre du privé, de l'expérience individuelle, des techniques spirituelles et d'un espoir de salut par un accès direct à la transcendance, et d'autre part, une religiosité plus publique, où l'on aspire à devenir un bureaucrate divin, c'est-à-dire l'objet d'un culte, donc l'objet d'une vie sociale, d'une identité reconnue socialement, validée socialement. Et d'une certaine façon, cette opposition, elle est pertinente pour l'analyse, à condition qu'on ne la considère pas comme absolue, qu'on la considère juste comme un outil heuristique, parce qu'en réalité, quand on regarde de plus près les pratiques religieuses et spirituelles lettrées, on se rend compte que les deux se font plus que se rencontrer, mais se mêlent et s'entrejoignent de façon très, très intime, de diverses façons. Et je voudrais évoquer ici l'une de ces façons, il y en a d'autres, mais qui est un lieu très important de la production religieuse, au sens de production de textes, élaboration de pratiques, mais aussi d'une sociabilité religieuse, qui sont les cultes d'écriture inspirée, et qui justifient donc le fait que j'ai intitulé mon intervention d'aujourd'hui « Écriture révélée et production doctrinale ». Alors depuis environ le XIIe siècle de notre ère, on voit apparaître... Alors peut-être que ces techniques ont certainement des antécédents antérieurs qui sont mal documentés, mais quoi qu'il en soit, à partir du XIIe siècle, on a, de façon très bien documentée, à la fois par les textes produits au travers de cette technique de révélation et par des descriptions dans toutes sortes de sources historiques de cette pratique, on a l'essor rapide de l'écriture révélée, connu en chinois par plusieurs termes, j'ai mis certains ici, donc Fuji, Fuluan, Jiangbi, il y en a d'autres encore, et qui se développent dans le cadre de groupes qui peuvent soit être très structurés, avoir leur propre temple, avoir voilà, leur propre règlement, une structuration interne très, très forte, et donc perdurer sur le siècle, ou au contraire, exister de façon très éphémère dans un cercle familial ou dans un cercle privé, toutes les sortes de configurations existent. C'est une technique donc, qui peut être adaptée de toutes sortes de façons. Mais une forme très courante à l'époque contemporaine, ce qu'on appelle le Tao Tan, c'est-à-dire le Tan, c'est l'hôtel, le lieu de culte du Tao. Donc ici, la photographie n'est pas très bonne, et un peu à contre-jour, mais c'est pris dans un appartement d'un de ces grands immeubles qui forment l'habitat à Hong Kong, il y a quelques années. Donc ce qu'on voit sur la photo, vous avez à droite la personne debout, ce sont deux jeunes femmes, donc la personne debout c'est le médium, et celle assise à côté d'elle c'est le scribe. Voilà, donc le médium est possédé par une divinité, en l'occurrence il s'agit de l'immortel Lu Dongbin, qu'on appelle aussi l'ancêtre Lu Zhu, qui est une des divinités les plus fréquemment rencontrées dans ce type de culte. Donc il y a des méthodes pour inviter la divinité dans son corps, donc c'est une transe qui est très contrôlée, très calme, qui se définit, comme je disais tout à l'heure, en opposition à celle des médiums populaires qui parlent, qui produisent des talismans, donc qui est souvent des transes très spectaculaires, parfois violentes. Ici on a une transe lettrée, très calme, très, très posée. Voilà, donc le médium est possédé par la divinité et écrit avec un instrument. Alors l'instrument peut être tenu par une ou deux personnes, de configuration existe, et donc elle écrit là, donc avec cet instrument qui est en bois de pêcher, donc un instrument consacré, des caractères sur une table. Ici je pense qu'elle écrit dans du sable, donc on voit le caractère écrit dans le sable, puis après on passe un râteau et puis on recommence. On peut aussi écrire dans la cendre, on peut écrire sur du papier, on peut écrire dans l'air. Donc les techniques varient beaucoup, mais peu nous importe ici. Donc la divinité possède le médium et écrit, et le scribe note à côté. Et ensuite, les autres personnes vérifient. Parfois, on demande au dieu de vérifier le brouillon pour voir s'il n'y a pas eu d'erreur. Donc, le dieu peut aussi corriger des erreurs. Et une fois que le texte est établi, il peut être diffusé. Donc très souvent, ce sont des textes en réponse à des questions. Donc c'est personnel. Dans ce cas-là, c'est pas diffusé. Hein, donc les gens prennent un ticket, viennent demander, posent au Dieu des questions sur leur avenir, sur leur choix de vie, des demandes de guérison, des questions personnelles. Mais très souvent, il arrive aussi que si le médium est assez doué pour cela, des textes plus élaborés sont produits. Et dans la plupart des cultes d'écriture inspirée, ça c'est un phénomène tout à fait courant. Rien qu'à Hong Kong, il y a 300 ou 400 temples qui pratiquent ça. C'est extrêmement courant. Hein. Et ça l'est donc depuis le 12e siècle. Donc c'est pas du tout un phénomène marginal, c'est un phénomène extrêmement courant au sein de la société. Donc la majorité de ces cultes ne produisent que des textes personnels en réponse à des questions, mais pour les cultes plus structurés, qui ont une expérience, qui ont des médiums doués, ils produisent des textes plus ambitieux et qui ont une portée universelle. Et dans ces cas-là, le groupe qui reçoit, évidemment, quand les dieux vous parlent, vous avez le devoir moral de distribuer leur révélation. Et donc, traditionnellement, donc les groupes imprimaient et diffusaient les textes. Maintenant, ils sont immédiatement mis sur Internet, ce qui n'empêche pas non plus une diffusion papier. Donc, il y a un devoir de diffuser le message divin. Donc, avant de parler de ces textes, deux, trois mots du le type d'organisation qui produit ces textes. Donc, les membres du groupe sont admis personnellement, et ça, c'est un élément crucial, je pense, à titre personnel, comme disciple du Dieu. Donc, chaque personne qui veut joindre le groupe demande à la divinité, si elle accepte ou non, de l'accepter dans son groupe, de le prendre comme disciple. Parfois, la divinité refuse, alors on peut demander plusieurs fois, mais quand on est accepté, il y a un sentiment très très fort, on le voit dans les textes et on le voit aussi quand on va sur le terrain étudier ce type de groupe, qu'il y a un sentiment d'avoir été élu et donc d'avoir une mission, donc d'être reconnu, donc il y a un sentiment très valorisant à titre personnel et qui s'accompagne d'un sens très fort du devoir, parce qu'on a été accepté comme son disciple personnel par cette divinité qui va rendre très élevé, hein. On a le devoir de contribuer à son œuvre. Donc ces dieux sont sauveurs, donc ils jouent moins par le fait de conférer des grâces personnelles, mais par le fait de jouer un rôle dans des scénarios eschatologiques qui varient suivant les groupes. Pas difficile de généraliser, encore une fois, c'est une technique qui a été utilisée pour produire et diffuser des textes assez différents. Mais il y a un courant très important qui remonte donc au premier texte produit par l'écriture inspirée au XIIe siècle et qu'on constate encore aujourd'hui, c'est que les textes produits par ce moyen relèvent d'un scénario eschatologique commun, qui a des variantes bien entendu, où les dieux disent, voilà, l'humanité a atteint un stade très avancé de déclin, de dégénérescence morale, les dieux ont décidé de déclencher l'apocalypse pour nettoyer l'humanité, seuls quelques élus seront sauvés, mais à la demande de tel dieu sauveur, Luzhu, qui était présent ce jour-là, Guandi, Wenchang, je ne vais pas vous donner trop de noms, mais c'est les trois principaux en réalité, un répit a été accordé pendant lequel les dieux vont venir prêcher un message de réforme morale à l'humanité, et si vous adoptez ce message, si vous arrivez à convertir les gens autour de vous, à revenir à une vie saine et morale, alors l'apocalypse pourra être repoussée, voire même annulée. Donc il y a ce scénario-là qui investit les membres de ces groupes d'une mission qui ne relève pas juste de leur salut personnel, mais qui les implique dans un scénario de salut universel. Voilà, et lien privilégié, mais pas du tout exclusif, avec le taoïsme au sein de ces groupes, notamment au travers de leur théologie, de leur liturgie et de leur technique spirituelle. Alors, les types de textes produits sont extrêmement variés. Tous les groupes ne produisent pas tous ces types de textes, mais voilà, c'est une typologie générale. Donc, on a les livres de morale qui expliquent la rétribution des actes, hein, quelle punition pour les mauvaises actions, quelle récompense pour les bonnes actions, et qui donc détaillent tout un programme de réformes morales, donc morale familiale, morale sexuelle, morale sociale, morale économique, du commerce, etc. Donc, manuel et instruction de perfectionnement de soi, et ça on va revenir dessus dans un instant. La géographie, donc les dieux qui viennent, qui n'apparaissent pas réellement visuellement, même si parfois ils dessinent leur propre portrait. Même au début du XXe siècle, on avait des groupes qui produisaient de la photographie par écriture inspirée. Donc on a des photos révélées par les dieux, d'eux-mêmes. Un phénomène très intéressant, puisqu'on parlait d'images tout à l'heure. La liturgie, donc les dieux révèlent des manuels liturgiques pour ces groupes, et certains de ces rituels ont connu un vaste succès, on les retrouve aujourd'hui dans la pratique populaire. Et puis des textes traduits par écriture, à défaut de meilleurs termes, qui sont des textes plus ambitieux qui mettent en œuvre toute une théologie et une cosmologie qui reprend ces différents éléments, qui intègre à la fois le message moral et la question de la pratique, des techniques individuelles spirituelles dans le scénario eschatologique que j'évoquais tout à l'heure, et en les raccrochant à l'enseignement des classiques, c'est-à-dire au fondement de la culture lettrée. Même si à première vue on pourrait penser que on a une opposition très forte entre, d'une part, une philosophie, une théologie, une cosmologie héritée des classiques et dite orthodoxe, et d'autre part ces messages très eschatologiques, en réalité la quasi-totalité de ces textes recherchent des synthèses et produisent des résultats qui, pour nous aujourd'hui au XXIe siècle, lisons ces textes avec une certaine distance, peuvent être plus ou moins convaincants. Certains le sont, dans certains textes font preuve d'une vraie créativité doctrinale, et ces groupes-là ont vraiment été un lieu majeur de production de nouvelles idées religieuses à l'époque prémoderne et moderne. D'autres textes nous paraissent beaucoup moins convaincants. Quand on pratique l'écriture médiumnique, ça pas toujours facile de construire des longs textes très construits et très cohérents philosophiquement, mais pour les groupes qui les recevaient, ces textes ayant un statut d'écriture révélée faisaient qu'ils soient plus ou moins convaincants dans leur regard, peu importe, ils faisaient toujours l'objet d'une part d'une grande vénération, mais aussi d'un travail d'exégèse. Donc il y a des commentaires continus basé sur la tradition exégétique classique et appliqué à ces textes révélés. Et ça, c'est quelque chose qui se déroule de façon permanente, sans solution de discontinuité. Donc depuis le XIIe siècle jusqu'à aujourd'hui encore, on voit les textes produits, puis observés par différents groupes, qui recevaient des textes un peu comme ça, cosmologiques, théologiques, doctrinaux, et qui les envoyaient immédiatement, qui étaient tapés sur un ordinateur à côté de l'hôtel où on pratiquait la révélation, et envoyés à des universitaires célèbres, des gens qui sont dans les études classiques, pour leur demander un travail d'exégèse et des explications sur ce texte. Voilà. Et aussi, tout sur cette production textuelle extrêmement abondante. Nous parlons de dizaines et de dizaines de milliers de titres, plus ou moins largement reproduit et disponible dans nos bibliothèques, mais la production est massive, et elle continue à un rythme qui ne se dément pas, et maintenant elle est essentiellement, elle remplit les téraoctets sur le cloud. Bien, quelques mots de plus sur la question du perfectionnement de soi, pour dire que ces groupes pratiquant l'écriture inspirée ont d'une part s'engage sans solution de continuité et sans opposition, d'une part dans une production doctrinale, et dont je disais à l'instant que parfois elle est réellement intéressante et importante du point de vue de l'histoire des idées, et d'autre part dans la formation de leurs membres dans les techniques spirituelles. Donc avec des manuels théoriques, plusieurs manuels importants d'alchimie intérieure ont été produit, écrit par ce moyen-là. Par exemple, Ding Hua Zhongzhe, qui a été traduit par Willem et commenté par Jung, comme le secret de la fiole d'or. Donc c'est un texte aussi intéressant pour l'histoire des idées religieuses, spirituelles, en Europe du XXe siècle. Mais aussi, ce qui est très important, des instructions personnelles. Dans l'écriture inspirée, les dieux parlent directement à leurs adeptes, et parfois sur un ton qui rappelle les échanges entre les maîtres bouddhistes et leurs disciples, l'invective en disant « Mais tu n'as fait aucun progrès spirituel parce que tu es feignant, il faut que tu médites avec davantage d'ardeur », voilà, ce genre de choses. Des conseils aussi, comment éviter, dans le travail alchimique, il y a des pièges, des tentations démoniaques, des choses très dangereuses, qu'on a vu récemment avec la vague du Qigong, comment certains types de techniques, quand elles sont pratiquées sans un contrôle suffisant, peuvent déboucher sur des choses, enfin sur des effets physiologiques extrêmement néfastes. Donc voilà, ces instructions personnelles données par les dieux à leurs adeptes. Et aussi, l'idée que ce travail, ces techniques spirituelles peuvent être transposées au niveau collectif. C'est-à-dire que l'idée que le vocabulaire, la vision du monde portée par l'alchimie, qui originellement est très individuelle, l'idée c'est de faire son salut contre les autres, enfin pas contre les autres, mais indépendamment des autres, voire contre les autres. Les premiers alchimistes, les premiers récits de d'immortalisation au tournant des débuts de notre ère, dans certains cas, montrent la façon dont, pour devenir immortel, il faut tricher vis-à-vis de la bureaucratie divine, parce que la bureaucratie divine tient les registres de la vie et de la mort. Voilà. Donc vous êtes normalement inscrit sur les registres de la mort qui vous attendent. Donc pour devenir immortel, il faut arriver à se faire désinscrire de ces registres. Et ça, dans certaines traditions, ça se fait par l'escroquerie. On fait passer quelqu'un d'autre à sa place, on change de nom. Voilà. Non, mais c'est, voilà, ça peut faire rire, mais c'est une vision de la bureaucratie, et, enfin de l'opposition entre salut et bureaucratie, qui est totalement transcendée par ces textes, puisque ici, l'idée de devenir immortel permet de jouer un rôle dans une sorte de salut alchimique de l'humanité dans son entier. Alors, est-ce qu'il nous reste un petit peu de temps ? Non, pas trop. Plutôt pour la conclusion. Alors en fait, je voulais vous évoquer un cas très intéressant. Le cas de... Non, mais la diapositive elle-même peut prendre 2 minutes, mais j'ai traduit pour vous un texte, en fait, qui est une biographie. Il est un petit peu long, mais voilà. C'est la biographie de ce personnage, Shao Jolin, qui est un personnage éminent de ces milieux d'écriture inspirée, puisqu'il a compilé 2 grands canons qui correspondent aux écritures révélées de 2 grandes divinités, donc Lu Zhu, qu'on évoquait tout à l'heure, et Wen Chang, qui a reçu lui-même et diffusé un texte très eschatologique, et dont on a une biographie dans un recueil de d'agiographie taoïste. Voilà. Et cette biographie, elle n'est pas totalement atypique, mais disons, elle est beaucoup plus détaillée que la plupart des biographies qu'on a de ces personnages, parce qu'elle parle vraiment de sa pratique des techniques spirituelles. J'essaie de le lire rapidement. Oui. Après, on arrive juste à une conclusion.
Évidemment.
Bon, texte est un petit peu long. Voilà. Donc le maître... Alors, je vous passe les détails, les noms de lieux, etc. Le maître s'appelait Shao Jolin, originaire de Ningbo, etc. Il était un excellent étudiant, mais il échoua plusieurs fois aux examens, tel était son destin. Sa naissance fut accompagnée de présages extraordinaires. Donc il voit je résume certains passages, il voit une sorte d'animal mythique qui fait irruption dans sa chambre, et il a une sorte d'éveil. Bon. En grandissant, son intelligence s'éleva très au-delà de la moyenne, mais il aimait surtout rester assis en méditation. À l'âge de 15 ou 16 ans, il prit pour maître Tsai Lai He, qui est aussi un personnage de ces milieux de l'écriture inspirée. Shao se spécialisa ensuite dans les méthodes de concentration, samadhi, là il utilise le terme sanskrit, mais voilà, on a appris ce matin qu'Henri Corbin avait aussi appris le sanskrit, donc il est légitime, je pense, d'utiliser ce terme. Samadhi, c'est une sorte de concentration très profonde et de visualisation. À un âge mûr, il se rendit au temple donc de l'immortel Lu, et le dieu descendit pour lui, il lui donna un nom religieux, lui conféra un texte d'initiation. À ce moment, Shao n'avait pas encore de fils, donc il se consacra à la tâche méritoire de servir de médiateur dans les disputes, donc il aide les gens à résoudre leurs disputes sans devoir aller au tribunal, si bien qu'au bout d'un an, il eut un fils. Voilà. Bénédiction de la part des dieux. Celui-ci a maintenant plus de 20 ans et il étudie depuis plusieurs années à l'école officielle. Par la suite, Shao progressa encore dans la pratique bouddhique, il se consacra à la récitation dans l'incantation de la grande compassion, Dabeijo, c'est l'incantation du Bodhisattva Guanyin, donc c'est une petite incantation, un usage extrêmement répandu. Très rapidement, c'est du pseudo-sanskrit. Très rapidement, il obtint la samadhi, donc la contemplation profonde, correspondante à cette incantation, mais il continua encore à se perfectionner sans relâche pendant plus de 20 ans, sans jamais s'arrêter un instant. À cela, il ajoutait les pratiques méritoires et charitables. Il établit un bac gratuit sur la rivière Qiantang, c'est la grande rivière qui arrive à Hangzhou. Il offrit plus de 30 charrettes à bœufs avec leurs animaux, donc pour transporter gratuitement les gens. Il mettait régulièrement en place des soupes populaires, des distributions gratuites de thés médicinaux qui aujourd'hui fonctionnent encore. Il distribua aussi à large échelle les cercueils pour les indigents, fit pratiquer des enterrements pour les corps abandonnés, distribua des vêtements et des médicaments. Il établit des institutions charitables destinées à ramasser les papiers couverts d'écriture, à libérer les animaux destinés à la boucherie, donc à sauver les animaux, et à secourir les pauvres, les veuves, les orphelins, en plus de 10 endroits différents. Il envoya aussi des suppliques aux autorités demandant une aide exceptionnelle aux populations. Donc, tout cela fut réalisé à l'initiative et sous la direction de Maître Shaw, qui collecta les fonds nécessaires. Il dirigea lui-même ses entreprises, étant toujours de sortie par canicule et comme par froid glacial, par vent, pluie, neige, verglas, sans jamais se récuser. Il acceptait les plaintes et les critiques et jamais y prit le moindre avantage personnel. Donc, personnage typique d'activiste des milieux caritatifs et philanthropiques. Au milieu de ses charges débordantes, il continua à pratiquer la récitation de l'incantation de la Grande Compassion. Il en arriva à pouvoir la réciter plusieurs centaines de milliers de fois par jour. Jamais, depuis les époques reculées, même un moine éminent n'était parvenu à ce point, on va dire à ce score. Entendant dire que le maître était capable de cela, les gens le dénigraient, mais ils ne savent pas que lorsqu'on a atteint la samadhi, c'est-à-dire la concentration profonde, on peut accéder à de tels résultats. C'est pour ça qu'on dit que la roue de la loi tourne d'elle-même, elle n'a pas besoin d'être poussée pour se mettre en mouvement. C'est ce que fait Shaw, c'est une récitation de l'esprit, ce n'est pas une mise en mouvement avec l'énergie corporelle. Un autre taoïste qui s'appelle Yin Yu Yang dit que les résultats merveilleux obtenus par Maître Shaw dans la récitation ne sont pas liés à la profération audible, mais à sa technique avancée de visualisation. Et cette méthode secrète lui a été transmise secrètement par son maître Tsai Lai He. Pour ceux qui peuvent entrer en concentration, ça permet une mise en application très avancée. Donc Shaw expliqua un jour à M. Yin, ma méthode pour pratiquer la récitation en état de concentration profonde consiste d'abord à faire apparaître en moi-même un monde pur. Dans ce monde se trouve une magnifique statue de Bouddha. Je pratique la récitation face à ce Bouddha jusqu'à ce que, graduellement, il n'y ait plus de différence entre la statue de Bouddha et moi. Alors, en un clin d'œil, ce monde se transforme en 10, les 10 en 100, les 100 en 1000 et les 1000 en des milliards de mondes. Dans chacun de ces mondes, on voit et le Bouddha et moi qui ne sont ni confondus ni distincts. C'est ce que le Bouddha appelle les mondes aussi nombreux que les grains de sable du Gange, mais qui tous tiennent dans un grain de riz. Mais on ne peut pas vraiment parler de ça à quelqu'un qui n'est pas dans la voie, il est difficile de l'expliquer à une personne étrangère à la religion. Le maître, dernier paragraphe, le maître excellait encore à la pratique du rituel d'offrande de nourriture aux âmes souffrantes. Donc c'est le rituel de salut des morts, un rituel extrêmement courant, fait pour les enterrements et aussi collectivement pour toutes les victimes de mal mort. Donc M. Yin raconte qu'un jour, Charles Jolin avait célébré ce rituel à Nankin. Au début, la scène nocturne était éclairée par les lanternes et les bougies, puis survint une forte, mauvaise odeur de viande. La lumière des bougies s'affaiblit jusqu'à un point petit comme un haricot, et un vent froid se leva et l'atmosphère dans l'air rituel devint terriblement oppressante. On vit alors que le maître, donc Shaw, dans une méditation totalement immobile, émettait une lumière qui devint brillante comme la lune et monta lentement jusqu'aux cieux. Brusquement, le son de vagues déferlantes jaillirent de sa bouche, puis des bruits de pierres entrechoquées, claquant comme le tonnerre, sur tous les tons possibles. À ce moment, les lampes se remirent à briller, la mauvaise odeur carnée et le vent avaient complètement disparu, l'atmosphère était devenue pure et fraîche. On vit alors apparaître des milliards de figures portant des couronnes. Certaines étaient grandes comme un humain, d'autres comme un bras, ou un doigt, ou un haricot, même petites comme un grain de riz. Toutes venaient en foule, se prosternaient, puis disparaissaient. Bien entendu, ce sont les âmes des morts qui sont sauvées par le rituel, qui viennent remercier et qui montent au paradis. Qui aurait cru que le pouvoir spirituel engendré par la pratique de la récitation de la part de Maître Shaw pouvait atteindre ce degré? Maître Shaw est né en 1748, il est mort en 1810, a donc vécu 63 ans. Ses nombreuses œuvres caritatives ont été continuées par M. Guo Xingqiao. Voilà. Donc dans cette biographie, qui est à la fois assez typique des biographies d'activistes qui mettent en œuvre des œuvres caritatives, à la fois un témoignage, je pense qu'il n'est pas atypique, mais qui est unique par son détail, enfin qui est remarquable par son détail et sa note personnelle sur les techniques spirituelles mises en œuvre, où on voit qu'on a vraiment les trois religions représentées, on a du taoïsme, du bouddhisme, du confucianisme, sont, à mon sens aussi, ce témoignage est intéressant parce qu'il montre que la technique spirituelle, elle est moins mise en avant pour la possibilité pour celui qui le pratique, Charles Jolin, d'atteindre l'éveil ou l'immortalité, la transcendance, ou d'une forme ou une autre, que par la façon dont elle lui permet d'accomplir des actes hautement méritoires, de la liturgie sur du service des autres, aussi bien sous forme d'œuvre philanthropique que du rituel à proprement parler, donc de le salut des vivants et le salut des morts. Et c'est à ce titre-là, le mérite obtenu par les techniques spirituelles, qu'il est divinisé et que ce type de personnage, comme on peut le voir encore aujourd'hui par l'observation des cultes chrétiens inspirés, où la divination de soi, le fait de vouloir devenir un dieu, est l'objectif majeur de tous les gens qui participent à ça, et ils sont très nombreux. Mais l'idée que l'accès direct à la transcendance, à l'immortalité, même s'il est hautement désirable, est très très difficile. Et donc l'idée, c'est sous les instructions des guides spirituels que sont les immortels, permettre d'entrer dans la bureaucratie divine par ses mérites, mais après la mort de pouvoir continuer à pratiquer jusqu'à atteindre finalement une transcendance sans retour.
Qui nous introduit dans un monde, dans des mondes variés, très, effectivement, qui nous sont étrangers, mais qui font aussi beaucoup réfléchir, qui suscitent toutes sortes d'éléments de comparaison. Donc, s'il y a des questions, des remarques, des interventions, c'est le moment.
Oui. Est-ce que vous avez écrit un livre qui présente l'ensemble de ce que vous pouvez faire pour se procurer?
Voilà une question qui fait plaisir et qui est relativement aisée à répondre. J'ai coécrit avec un collègue anthropologue un livre sur l'histoire religieuse du XXe siècle chinois, qui s'appelle La question religieuse en Chine. On parle un peu de ces choses-là, mais j'ai en chantier un livre qui s'appelle Sotériologie lettrée. On parle de. Voilà. Donc il sera plus sur l'objet de la communication d'aujourd'hui. Il n'est pas fini d'écrire, mais d'accord. J'espère pouvoir vous le montrer bientôt.
D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres professeurs qui travaillent sur le sujet, cette bureaucratie spirituelle chinoise? Je ne vois pas de chercheurs qui travaillent dessus.
Non, c'est un champ assez nouveau du fait que les travaux sur le taoïsme ont historiquement, même s'ils sont très présents en France, qui est un des bastions d'études taoïstes depuis très longtemps, ont tendance à privilégier, pas de façon exclusive bien sûr, mais malgré tout privilégier d'une part les textes anciens et d'autre part les observations de terrain en milieu rural, là où la tradition liturgique est la mieux conservée. Et donc ce monde des élites modernes qui a largement, mais pas entièrement disparu, qui s'est transformé, ne fait l'objet de recherches que depuis assez peu de temps. Mais il faut dire aussi que tous ces immenses corpus de textes produits par l'écriture révélée ne sont largement disponibles dans nos bibliothèques sous des formats électroniques que depuis assez peu de temps. Il y a 20 ans, on avait quelques textes, mais très très peu, ça ne permettait pas de se faire d'avoir une image un peu générale de paysage à la fois textuel et religieux. Et donc c'est la récente publication de quantités vraiment très très importantes de textes religieux modernes, quand je dis modernes, c'est au sens depuis le XVIe siècle, de ce type-là, commence à susciter des travaux. Mais c'est tout à fait récent.
Les anglo-saxons et les allemands travaillent dessus?
Non.
Non.
Non, les Taïwanais, les gens à Hong Kong, les Français. Les études chinoises nord-américaines restent. Elles se pluralisent, elles se diversifient, ce qui est une excellente chose, mais jusqu'à encore très peu de temps, restaient très ancrées dans. Disons très dominées par les paradigmes apportés par les intellectuels chinois qui sont arrivés aux États-Unis après 1949, dans une vision très puriste du confucianisme, imaginé comme étant le cœur de la culture chinoise, et donc repoussant ou ignorant tous ces aspects-là. Bon, de cette façon un peu simplifiée, mais. Voilà. Les Taïwanais ne sont pas à la pointe de la recherche là-dessus. Mais j'ai des collègues américains qui travaillent.
C'est ça, une question de curiosité. Est-ce que cette technique d'écriture inspirée était connue, par exemple, des missionnaires jésuites? Et si oui, quelle était leur attitude?
Je ne peux pas répondre de façon définitive. Je n'ai pas vu de description de cela chez les jésuites, mais ça a pu m'échapper. C'est une mec, il faudrait que je regarde de plus près. C'est une très bonne question. Ça a été décrit par, au début du XXe siècle, par des missionnaires catholiques, protestants et autres. On a des descriptions. Très bonne description de Rotters, par exemple, qui était un missionnaire de Schrott, missionnaire belge, qui a fait de très belles descriptions de la façon dont c'était pratiqué dans les années 30-40 dans le nord de la Chine. Et pas toujours de façon hostile, parce que bon, c'est encore un autre épisode de cette histoire que je ne vais pas parler aujourd'hui, mais pendant la première moitié du XXe siècle, il y a eu donc à la fois des campagnes de destruction, toutes les campagnes anti-superstition, qui ont eu beaucoup de destruction des institutions religieuses, mais il y a eu aussi un mouvement de renouveau anti-4 mai, donc anti-laïque, anti-scientiste, ce qu'on appelle maintenant les sociétés rédemptrices, qui sont des mouvements de masse religieux qui pratiquent l'écriture inspirée, qui ont un discours eschatologique, mais qui adoptent aussi un mode d'organisation inspiré à la fois des mouvements missionnaires bouddhistes japonais et des églises surtout protestantes et éventuellement catholiques. Donc avec des journaux confessionnels, des stations de radio, des missionnaires partout dans le monde, des aumôniers en prison, ce genre de choses. Donc des formes d'organisation très modernes, avec un message de voilà, la spiritualité chinoise ou orientale est supérieure au matérialisme occidental. Donc, et un discours de synthèse des cinq religions. Donc là où ce dont je vous parlais pratiquait pas du tout le syncrétisme, hein, mais une sorte de synthèse des trois religions, donc bouddhisme, taoïsme, confucianisme, à la première moitié du XXe siècle, on est passé à la synthèse des cinq, donc ajoutant le christianisme et l'islam. Et certains pratiquaient le baptême, ce genre de choses. Et certains missionnaires, alors évidemment pas tous, mais certains missionnaires trouvaient ces mouvements-là très intéressants en ce qu'ils véhiculaient un message moral assez proche du leur. On trouvait moyen d'en faire des compagnons de route, si vous voulez, pour utiliser une expression qui n'aurait sans doute pas accepté avec enthousiasme. Trouver des points de recoupement, s'allier avec. Donc certains missionnaires faisaient partie des intellectuels chrétiens, faisaient partie étaient membres honoraires, ce genre de choses, de ces sociétés-là, et organisaient, la YMCA organisait des activités en collaboration avec ces mouvements-là. Des campagnes contre les pieds bandés, contre l'opium, pour l'éducation des femmes, ce genre de choses. Des choses très progressistes. Des mouvements éducatifs progressistes, etc. Donc il y avait des regroupements, des intérêts communs, des valeurs communes, et ce qui fait qu'on a certains missionnaires qui allaient assister donc, aux réunions de ces sociétés-là, et donc y compris l'écriture inspirée. Et donc on a des descriptions qui ne sont pas du tout sur ce qu'on pourrait imaginer a priori, sur le mode de la dénonciation, de la superstition, etc. Bon, évidemment, il n'y a pas non plus une approbation totale, mais des descriptions qui ne sont pas hostiles.
Question. Juste
une petite question. Vous avez évoqué, merci d'avoir renforcé cette stimulante conférence, vous avez évoqué l'existence de 300 temples d'écriture révélée à Hong Kong aujourd'hui. Je m'interrogeais sur l'éventualité d'une unité doctrinale. Est-ce qu'il y a une recherche d'unité doctrinale de toutes ces productions révélées? Est-ce qu'il y a un magistère, une autorité qui se prononce sur cette unité?
Non, il y a pas, le magistère, c'est celui des dieux. Or, les dieux parlent en même temps à beaucoup de gens différents. Mais le mouvement n'est pas aussi centrifuge que ça. Parce qu'il y a une sorte de régulation interne qu'il est difficile de mettre en évidence très clairement et qu'on voit malgré tout fonctionner de façon assez implicite, au sens où quand un médium, parce que ce sont des médiums, commence à écrire des choses qui ne conviennent pas, et bien, très vite ça s'arrête, il est renvoyé de son groupe ou le groupe échoue. Non, il y a des histoires très drôles comme ça. Un des premiers livres sur le sujet qui s'appelle Fine Flakes de Jordan Obermeyer raconte l'histoire du médium qui commence à faire parler Dieu en disant que ce médium est formidable, il faudra lui acheter une Mercedes. Voilà, et donc il a une ordre. Donc, très rapidement, on trouve un autre médium, quand même. Donc, il y a une sorte de régulation interne. Non, mais ce qui peut être évoqué, effectivement, sur ce mode un peu ironique, est vrai aussi doctrinalement. Il y a un champ des possibles, des acceptables, ce qui est la même chose, assez large, mais malgré tout, il y a un cadre, il y a des limites. Donc, cette unité doctrinale, elle se place à l'intérieur de ce cadre-là. Donc, ce que j'évoquais tout à l'heure, ce scénario apocalyptique, c'est une sorte de chose commune, mais sur laquelle on trouve toutes sortes de variations. Et par exemple, il n'est pas possible de dire que les dieux décrètent que maintenant l'humanité est formidable, il n'y a pratiquement plus de pêcheurs, et que donc, les règles sont relâchées. Ça ne marche plus, parce que ça ne mobilise plus les membres. Et il y a très peu de coordination au sens où c'est vraiment au niveau de ces groupes qu'il faut entre 100, 200, 300 personnes maximum. Au-delà, ça ne marche plus. Où il y a une interconnaissance, il y a une dynamique de groupe avec des spécialisations. Il y a le médium. Ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent faire ça. Il y a des groupes qui meurent, qui échouent, qui disparaissent, parce qu'un médium disparaît et personne ne peut prendre sa suite, parce que ce n'est quand même pas facile de produire des textes comme ça. Il faut une culture, quand même. Enfin, c'est pas. Puis dans le groupe, il y en a d'autres qui font plutôt les rituels, il y en a d'autres qui font l'organisation, il y en a qui s'occupent du côté charitable, etc. Donc voilà, il y a une division des rapports. Mais il y a une dynamique interne au groupe, et c'est par l'appartenance à ce groupe qu'on fait son salut. Et ces groupes-là vénèrent leurs membres défunts comme des dieux. Je n'ai peut-être pas assez dit, mais ça c'est vraiment essentiel. Ils rendent les révélations, les gens meurent, et tout de suite après, ils expliquent, j'ai été promu vice-ministre de la promotion de la vertu dans le ministère du tonnerre, ou dans le contrôleur du registre des destins et de la punition des méchants sous l'autorité du dieu du Pic de l'Est. Troisième bureau, deuxième section. Je ne présente pas, c'est comme ça. Donc, ils sont promus, ils se promeuvent eux-mêmes, en réalité, à des postes dans la bureaucratie divine. Et c'est pour ça qu'ils le font. Et cette dynamique-là, elle est à l'intérieur du groupe. Et le fait de rassembler tous ces groupes dans des grandes organisations, ils n'ont rien à y gagner. C'est dans ces petits groupes que se fait cette dynamique, que se fait cette promotion de soi comme un dieu ou un futur dieu. Ceci dit, il y a des associations, plus à Taïwan.
Oui, pensez à deux choses qui font vraiment une différentielle, me semble-t-il, posant d'ailleurs du coup le problème de savoir comment il peut y avoir intégration de l'islam éventuellement sous certains traits. C'est que d'abord, manifestement, la divinisation est à prendre au pied de la lettre, c'est devenir un dieu. Alors que dans des textes, évidemment, c'est impossible. Enfin, la limite qu'on trouve en texte en islam, c'est devenir ange. Se diviniser, il y a l'expression, mais c'est un devenir angélique quand même. Et puis le réalisme de la chose. Et puis le modèle du gouvernement et de la place qu'on y trouve. Parce que il me semble quand même qu'en islam, on n'a jamais autre chose qu'un gouvernement de type cosmique. Et donc les quelques modèles de participation à un gouvernement divin, ne sont pas véritablement des positions, des places gouvernementales. C'est autre chose, c'est faire partie d'une cour. C'est plutôt un modèle strictement liturgique qu'un modèle gouvernemental au sens strict. Alors que là, c'est frappant. C'est vraiment un modèle. Donc, le type qui a été méritant, il trouve sa place. Donc deuxième bureau, troisième. Et donc, est-ce qu'il y a une vision, je connais absolument, est-ce qu'ils ont un mode de, disons en tout cas, de représentation spatiale ou autre de cet espace peuplé de dieux et en même temps peuplé de fonctionnaires. Ce qui me ravit. Est-ce qu'il y a une topographie spirituelle, ce qu'on appellerait ailleurs une topographie spirituelle, vaut ce qu'il vaut, de cet espace-là.
Moins que ce à quoi on pourrait s'attendre. Un peu quand même dans l'espace liturgique, quand on fait un grand rituel, on invite tous les dieux. Donc ce panthéon, il est les représenter visuellement. Alors en général, c'est des rouleaux qu'on... Donc c'est... l'exposition est éphémère, mais parfois sur les peintures murales, des salles consacrées à ces rituels-là dans les temples, voilà, qu'on ait les moyens, on peut les peindre de façon voilà, qu'elles restent en place. Quoi. Donc on a une représentation visuelle de ces panthéons, oui.
Sont de vrais. Donc,
oui. Mais ce qui est le plus représenté, c'est la partie de la bureaucratie divine qui s'occupe des morts. Là, les représentations sont vraiment extrêmement nombreuses et très détaillées. Et vraiment, c'est le mode bureaucratique. Donc on voit les juges qui ont la pancarte avec le titre, les greffiers, les dossiers avec les noms sur les dossiers. C'est très, très... Et en fait, c'était la principale représentation. Avant l'expansion phénoménale de l'État chinois, mais ce n'est pas propre à la Chine, c'est vrai dans beaucoup de sociétés, au cours du XXe siècle, les gens ne voyaient pas les fonctionnaires. Les fonctionnaires, pour eux, c'était mythique. Vers 1900, on a 400 millions de Chinois, il y a 20 000 fonctionnaires. Fonctionnaires nommés par l'État. Hein. Voilà, donc il y a un magistrat pour un district qui, en moyenne, fait 200 000 personnes. Donc, les gens normaux, évidemment, les très grands marchands, les fonctionnaires retraités, connaissaient, ils allaient faire de la poésie ensemble, ils vivaient ensemble. Mais les gens normaux ne les voyaient jamais. Donc pour eux, c'était mythique. Et pour eux, la réalité de la bureaucratie, c'est ça. C'est les temples et les dieux. Et les gens qui faisaient encore du terrain, non plus aujourd'hui, mais qui faisaient du terrain dans les années 50-60, les gens leur disaient, notre administration à nous, c'est les temples et les dieux. C'est là où on allait faire... Il n'y avait pas l'état civil. On allait déclarer les naissances et les morts au temple, parce que c'est le dieu du sol qui gardait ça. Et c'était une bureaucratie très... on peut dire symbolique, mais d'un symbolisme extrêmement présent et développé. Et
il y avait une question, madame Bonny.
Juste une vraie remarque. J'ai vu récemment le livre de Martin Dorf, qui est absolument magnifique. C'était à Chimie de Belfique, je pense qu'on peut le voir comme ça, non?
Oui, oui.
Et évidemment, ça m'a fait penser aussi à la théosophie de la lumière chez Sohrawardi. Il me semble que dans l'expérience décrite, et dans certains passages absolument magnifiques sur l'émergence de la lumière, on peut voir, on peut établir un parallèle dans l'expérience, en tout cas, avec Sohrawardi. Oui. La théosophie de la lumière.
Non, certainement. Et c'est aussi, je pense, un peu dans cet esprit-là que Wilhelm l'a traduit, que Jung l'a analysé, qu'il a été lu et reçu.
Je pense pas. Je ne connais rien, mais chez Sohrawardi, il n'y a rien de mystérieux. Absolument rien de mystérieux. Il a des visions que tout le monde peut avoir. On n'a besoin d'aucun savoir. Il le dit bien, ce sont des visions qu'on a, ce sont des silhouettes flottantes dans l'air. Je vois pas, vous faites allusion, et ça n'est ni un savoir, ni de pratique, ni une... C'est la preuve qu'avec un tout petit peu de clarté dans l'atmosphère et un peu de subtilité dans la matière, des formes, évidemment venant du monde spirituel, se manifestent. Ce sont des textes tout simples, hein, et qui ne relèvent pas d'une expérience... tout de même de type alchimique, par exemple. Je pense, voilà, je pense que je peux en savoir. Hein.
Donc,
oui, non, il n'y a rien à leur attribuer de plus que ça, si vous voulez. C'est ça qui fait quand même la différence. Tandis que là, il y a, tout de même, je ne sais pas, je me trompe, il y a un apprentissage.
Oui,
là... Il est didactique, mais juste dans l'expérience. En fait, c'est, ouais. Ce que je veux dire, c'est que je ne veux pas dire que sur Avarie, on est fait lui quelque chose de didactique.
Non, mais chez lui, c'est vraiment quelque chose de... Il atteste que ça existe, et que donc, moins on a de pesanteur, et plus on accède à ce monde de merveilles, que tout un chacun peut rencontrer, y compris des gens qui sont de simples... qui n'ont jamais rien pratiqué, rien du tout, qui n'ont pas de connaissances, et qui voient brusquement sortir ça.
Oui, la démarche est différente. Ah. Je parlais juste de l'expérience, en fait. Dans votre exposé, vous avez parlé de trois dieux en particulier susceptibles de fournir ces révélations. Vous voulez savoir à quel panthéon ils appartenaient, puisque vous avez parlé d'un panthéon dans lequel, une fois qu'on est membre, quand on est décédé, quand on est membre de ces confrères, de ces groupes, on va prendre sa place dans la hiérarchie de tel dieu, etc. Est-ce que c'est les dieux révélants, si je puis dire, font partie de cette hiérarchie? Puis je me posais la question aussi de savoir quelle proximité on pouvait avoir avec, en termes d'expérience mystique avec, entre tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent qui relève de l'appartenance à une religion monothéiste, donc on va se fondre dans l'un, par rapport à ces expériences-là qui sont finalement très diluées dans des appartenances multiples, des reconnaissances multiples.
Oui. Pour ce qui est de la seconde question, et les appartenances multiples, des pratiques multiples, mais qui sont à l'intérieur d'une certaine orthodoxie, parce que ces mêmes textes dénoncent de façon virulente des pratiques déviantes, des hétérodoxies, etc. On n'est pas du tout dans un monde merveilleux de tolérance et d'égalité. Hein, c'est pas l'objet. Au-delà de ces différentes voies reconnues dans un cadre orthodoxe mais pluriel, il y a l'idée de retourner à l'unité, hein, qui est très très forte. Hein, l'idée que le Dao, c'est l'un, c'est ce qui précède donc la première division en deux, donc le Yin et le Yang. Après, voilà, tout ce processus de génération cosmologique qui arrive à l'univers, le monde tel qu'on connaît, donc extrêmement différencié. L'idée, c'est de reprendre ce processus à l'envers, de le remonter pour remonter à l'unité. Donc l'idée de revenir à l'unité est très très forte. Les panthéons. Le panthéon de ces groupes-là, et je ne parle pas pour tous les panthéons chinois qui peuvent exister, hein, mais les panthéons de ce groupe-là, mais qui est très largement reconnu, qui est très consensuel à défaut d'être unique, il est essentiellement assis sur une théologie taoïste. Mais il intègre aussi bien les Bouddhas, un panthéon bouddhique chinois qui lui-même emprunte énormément au taoïsme, et les saints confucéens. Donc il n'y a pas des panthéons différents, il y a un panthéon en pleine expansion, c'est surtout ça qui me paraît intéressant, c'est que pour caser toutes ces nouvelles personnes qui meurent et qui deviennent des dieux, voilà, il faut leur trouver de la place. Donc ce n'est pas un phénomène de différenciation, c'est un phénomène d'expansion bureaucratique, ce qui doit sûrement parler à beaucoup d'entre nous dans cette salle. Il faut caser des gens, donc on crée des postes, on crée des bureaux, etc. Mais à l'intérieur d'un cadre théologique, d'un principe théologique, qui reste fondamentalement le même. Après, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de dieux qui révèlent des textes par l'écriture inspirée, qui se posent comme des sauveurs, ayant joué un rôle particulier et unique, ayant cette mission qui leur est confiée par l'empereur de Jade, donc qui est le en haut du panthéon, quoi, de sauver l'humanité. Donc il y en a un certain nombre, il y en a de nouveaux qui apparaissent chaque jour. Et parfois, des dieux écrits par l'écriture inspirée parlent à des gens qui ne les connaissent pas. C'est pour ça qu'il y a de la géographie. Parfois, le pinceau, le stylet s'agite et dit « Je suis Monsieur Liu ». Et les gens, c'est qui ? J'ai entendu parler. Alors, il explique « Voici ma biographie, voici ce que j'ai fait, voici comment je suis devenu un immortel, voici comment j'ai continué à progresser après mon passage dans l'eau de lac. Bon. » Mais les trois principaux que j'évoquais, qui ont vraiment... qui sont connus partout, qui ont des temples partout, et qui ont ces canons d'écriture révélés, alors... qui leur est propre et dont il existe des dizaines et des dizaines d'éditions, qui sont très intéressants parce qu'ils forment une sorte de triade qui est représentée comme travaillant ensemble pour cette œuvre de salut de l'humanité et qui sont censés représenter les trois grands enseignements. Donc, l'immortel Lu est taoïste, après Wenchang, qui à l'origine était un dieu taoïste, hein, qui était même un démon à l'origine, devenu un dieu taoïste, devenu un saint confucéen, un saint patron des étudiants. Hein, c'est à Wenchang qu'aujourd'hui les étudiants qui passent l'examen d'entrée à l'université vont prier. Il représente le confucianisme. Guandi aussi représente le confucianisme. Après, on a ajouté un saint bouddhiste qui est Jigong. C'est un peu plus tardif, c'est à partir des années 1870-70. Très important aussi à l'époque contemporaine. Voilà, donc il y a ces cinq qui appartiennent plutôt à un des trois enseignements, mais tous disent « mais c'est la même chose ». Donc ils n'ont pas des panthéons différents. Ils représentent des traditions différentes à l'intérieur du même panthéon.
Bien, ben, en tout cas, nous remercions vivement.